Partons à la découverte du patrimoine de la ville d'Arras, du Beffroi en passant par les différentes places jusque l'abbaye Saint-Va. C'est ce que nous propose tous les lundis à 15h l'Office de tourisme d'Arras au travers de la promenade arrageoise.
Alors ici vous êtes sur la petite place, en fait bon, on continue à l'appeler la petite place, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale elle a un nom, elle a le nom de la place des héros pour rendre hommage aux 220 membres de la résistance qui ont été fusillés dans les fossés de la citadelle entre 1940 et 1944. La première chose qu'on voit bien sûr sur la petite place, c'est le Beffroi et l'Hôtel de Ville. Alors le Beffroi d'abord. Il a été construit entre 1463 et 1553. Donc si on fait le calcul, ça fait 90 ans pour le construire à cause des guerres et du manque d'argent. Déjà à cette époque. Ce beffroi était bien sûr une tour de guet. Donc quand il y avait un incendie en temps de paix, l'ennemi qui avançait en temps de guerre, eh bien, il sonnait la cloche appropriée parce qu'il y avait quatre cloches selon l'événement. C'était aussi un symbole. C'était le symbole des privilèges de la ville, c'est-à-dire de son indépendance. Fin du XIIe siècle, Arras a obtenu une charte du roi Philippe Auguste qui déterminait et garantissait les privilèges de la ville. Ça voulait dire que la ville en tant que commune avait le droit d'avoir 12 échevins. D'un point de vue architectural, c'est une tour carrée jusqu'au niveau de l'horloge. Ensuite, elle devient octogonale et de plus en plus mince, jusqu'à arriver à la couronne impériale. Jacques Le Caron, l'architecte, l'a coiffé de cette couronne impériale qu'il a plus ou moins copiée sur le Beffroi d'Audenarde en Belgique. Tout à fait au sommet, on a le lion d'Arras, l'emblème de la ville, qui depuis le passage de Louis XIV dans la ville, tient un soleil. En fait, bon, les Arrageois n'étaient pas trop contents de le recevoir quand il est venu, mais pour montrer un petit peu de bonne volonté, eh bien, ils ont mis un soleil à leur nom. Bien sûr, c'est une structure gothique. On a ensuite l'hôtel de ville, le corps de logis, donc la partie du milieu, est aussi une structure gothique. Les ailes ont été ajoutées par la suite. L'aile gauche en 1572, l'aile droite au 19e siècle. À chaque fois parce que les échevins trouvaient que leur hôtel de ville était trop petit. Donc c'est en faisant en fait des extensions. Et là vous voyez que ce n'est plus du tout le même style, c'est plutôt un style Renaissance. Vous êtes sur la grande place. Comme vous voyez, elle est très grande. À l'origine, elle faisait partie du verger des moines de l'abbaye Saint-Va. C'est au XIe siècle que les moines ont décidé de vendre leur verger. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître des maisons autour de la place, qui est devenue place de marché. En fait, nos deux places sont deux places principales sont des places de marché depuis le XIe pour celle-ci et le XIIe pour la petite. Ce qu'on voit, bien sûr, ce sont les maisons qui ressemblent aux maisons de la petite place. En tout, nous avons 155 maisons qui reposent sur 345 colonnes. Et elles datent pour la plupart du XVIIe et XVIIIe. Et elles sont construites dans le style maniériste flamand. Effectivement, certains disent espagnol, mais c'est un style qui s'est beaucoup répandu en Europe, en Espagne comme dans d'autres pays, c'est pour cela. Mais autrement, non, c'est flamand. Donc un petit peu moins exubérant que le baroque. Et celle qui est la plus proche de nous n'a qu'un seul étage au-dessus des arcades, et non pas deux. Alors je vous ai dit que bon, la plupart des maisons datent du 17e, 18e, dont le style maniériste flamand, mais il y a toujours une exception, n'est-ce pas? Vous avez peut-être remarqué déjà la maison dans le fond au coin, une maison en briques principalement, l'hôtel des trois lupards, c'est-à-dire des trois léopards. Elle date de 1465. Là, ce n'est plus du tout le même style, bien sûr. Au rez-de-chaussée, on a des arcades en arc brisé qui reposent sur des colonnes à griffes. Les chapiteaux sont décorés, tandis qu'ailleurs, ils sont plutôt simples. Au-dessus, on a des fenêtres qui sont à meneaux et qui sont donc entourées d'une moulure qui se termine en arc brisé aussi. Au-dessus encore, on a deux autres fenêtres qui sont une échauguette. La petite tourelle à encorbellement qui nous rappelle bien sûr les forteresses du Moyen-Âge. Et donc finalement, le pignon n'est pas à volute comme pour les autres maisons, mais à redans. Et ici, dans le nord de la France, on a un nom plus poétique pour désigner ce type de pignon. Vous le connaissez, non? Voilà, à pas de moineaux. À pas de moineaux. Alors, ce que vous voyez sur les marches ne sont pas des moineaux. Non plus. Autrement, ils seraient pétrifiés.
Ah oui, d'accord, c'est pas des vrais.
Non. Ce sont tout simplement des projecteurs. Parce que le soir, bien sûr, on éclaire la place, toute la place est éclairée pour bien sûr mettre en valeur la beauté de ces maisons.
Nous sommes toujours en compagnie de la guide de cette promenade arageoise et nous allons maintenant découvrir ce qu'il se passait auparavant sur cette célèbre grande place.
Sur la place, vous voyez bon, tout ce qui est festivité populaire se tiennent sur la place. Il y a aussi le marché qui s'y tient. En fait, c'est des traditions aussi. Il y avait par exemple des tournois, les joutes qui se tenaient sur cette place. C'est aussi sur cette place que se tenait le marché au grain. Le marché au grain dont les Arageois étaient très très fiers. D'ailleurs, quand Napoléon III est venu dans la ville, eh bien, les marchands de grains ont monté une montagne de sacs de grains et tout en haut, ils ont mis un écriteau avec Arras, premier marché de France. Donc, ils étaient très très fiers de leur marché. Bon, malheureusement, il a disparu aussi du développement du chemin de fer. Parce que comme chaque village pouvait avoir son propre marché, c'était plus la peine d'avoir un marché centralisé. Au coin là-bas de la Grande Place, il y avait l'une des portes de la ville, la porte Saint-Michel, par laquelle se faisaient les joyeuses entrées. Alors, les joyeuses entrées, c'était les entrées de personnages importants. Et à chaque fois qu'il y avait une joyeuse entrée, eh bien, il y avait tout un rituel associé à cette entrée. Avant même que la personne puisse entrer, il fallait qu'elle jure de respecter les privilèges de la ville. Donc, en fait, les Arageois étaient un petit peu méfiants. Donc une fois qu'elle avait fait cela, eh bien, la personne entrait, on lui tendait les clés, elle entrait. Et ensuite, on l'emmenait à la cathédrale pour une messe, ensuite à l'hôtel de ville pour discuter avec les échevins, etc. Et les corporations de la ville participaient aussi à ces festivités, donc c'était quelque chose de très animé, très coloré.
En voisine de la cathédrale, nous retrouvons maintenant l'abbaye Saint-Va, rénovée au XVIIIe siècle.
Alors ici, vous êtes dans la cour d'honneur. Là, il y avait le logement de l'abbé. Le logement de l'abbé, très confortable, bien meublé. De l'autre côté, il avait aussi son petit jardin. Oui, voilà, avec son petit jardin, avec sa petite fontaine. Et son logement était séparé du reste de l'abbaye par un passage voûté qui aujourd'hui fait partie de notre médiathèque. En face du logement de l'abbé, on avait le quartier de l'Empereur. Le quartier de l'Empereur qui en fait était l'hôtellerie pour les personnages importants de passage. Donc là aussi, des logements très confortables. Et là aussi, donc, c'est pareil du reste de l'abbaye par un passage voûté. De l'autre côté de ce passage voûté, il y avait des bureaux. Alors, des bureaux parce que... Donc c'était une partie qui était ouverte au public. Donc des bureaux parce que l'abbaye était le propriétaire d'une bonne partie de la ville. Et tous ceux qui avaient des maisons sur leur terre, s'ils voulaient changer quoi que ce soit à leur maison, eh bien il fallait qu'ils viennent demander l'autorisation aux moines. Face à ce bureau, il y avait d'abord le bureau du père Célérier, c'est-à-dire, bon, c'était toujours des moines, hein, mais donc lui, il s'occupait de tout ce qui était, c'était un genre d'intendant, donc tout ce qui était finance de l'abbaye. Ensuite, il y avait les cuisines, le réfectoire des moines. Les cellules étaient aux étages.
En sillonnant les rues d'Arras, nous pouvons découvrir des maisons cachant de nombreux secrets, comme par exemple la maison du célèbre Robespierre située face au théâtre.
Il fallait savoir que c'était la maison de Robespierre pour savoir qu'il y avait une plaque là-haut qui vous disait que c'était la maison de Robespierre. En fait, pourquoi est-ce qu'elle était tout en haut? Eh bien, c'est parce que beaucoup d'Arageois ne voulaient pas savoir que c'était la maison de Robespierre. Ils n'étaient pas d'accord pour qu'on mette une plaque sur la maison de Robespierre. Bon, il faut dire que pendant la Révolution, il y a quand même eu 391 victimes de la guillotine qui étaient sur la place du théâtre. Et donc, beaucoup de personnes n'ont pas pardonné à Robespierre tout cela. Autrement, donc, la guillotine donc, sur la place du théâtre, et on peut dire qu'il avait une très bonne vue, en fait, hein, sur ce qui se passait.
Apparemment, la visite a intrigué de nombreuses personnes. En voici quelques ressentis.
Je ne pensais pas en faire autant.
Et ouais. Vous habitez dans le coin ?
Bah, en fait, on est originaire d'Arras. Toi, tu habites encore par ici, mais j'habite sur Douai.
Et vous avez appris des choses, bien que vous connaissiez quand même la région.
Ah non, on apprend toujours des choses. On visite souvent les extérieurs et pas sa propre vie.
Merci beaucoup. Cette sympathique promenade arrageoise s'adresse aux personnes extérieures à la ville, tout comme bien évidemment les habitants de la commune, puisque nous apprenons de nombreuses choses intéressantes sur l'histoire et l'architecture d'Arras. Cette promenade se passe jusqu'au 31 août, au départ de l'office de tourisme d'Arras, situé au Beffroi Hôtel de Ville, tous les lundis à 15h. Concernant les prix, c'est 6,50€ pour les adultes et 3,60€ pour les enfants.